VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 11 février 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Les partenaires de l'accord de paix au Mali se sont réunis pour la première fois à Kidal. Au Kenya, la justice a abandonné les poursuites contre les policiers accusés de violence pendant le couvre-feu. Selon Human Rights Watch, l'armée éthiopienne a tué 83 civils lors du conflit au Tigré. Poursuite au Sénat américain du procès de l'ancien président Donald Trump pour l'assaut du Capitole par ses partisans. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Au Mali, les partenaires de l'accord de paix d'Alger se sont réunis ce jeudi pour la première fois à Kidal afin de faire avancer sa mise en œuvre. Le point avec Abdourahmane Dia.
La réunion a commencé en présence des partis signataires, notamment des représentants d'anciens groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux. Il y avait aussi une forte représentation des partenaires de l'Algérie, des diplomates des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et plusieurs ministres maliens. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, intervenant par visioconférence, a vu tout un symbole dans cette réunion à Kidal. Une précédente réunion du comité de suivi prévue en septembre 2019 à Kidal avait été reportée et s'était finalement tenue ailleurs. Jamais le comité de suivi de l'accord dit d'Alger ne s'était réuni dans cette ville du nord du Mali qui demeure sous le contrôle de l'ancienne rébellion à dominante Touareg depuis sa signature en 2015. L'accord d'Alger prévoit l'intégration d'ex-rebelles dans les forces de défense maliennes ainsi qu'une plus grande autonomie des régions. Le comité de suivi se réunit quelques jours avant la tenue d'un sommet des pays du G5 Sahel et de la France les 15 et 16 février à N'Djamena pour faire le point sur la situation sécuritaire dans la sous-région.
Au Nigeria, les autorités ont mis en garde les manifestants qui prévoient de se rassembler samedi à Lagos pour demander justice après la répression d'octobre dernier, les appelant à se désister au vu d'un risque de violence très élevé. Plusieurs grandes villes avaient été secouées en octobre par une vague de manifestations réclamant le démantèlement d'une unité de police accusée d'exaction. Au Kenya, la justice a abandonné les poursuites contre 15 policiers et 6 agents municipaux accusés d'avoir perpétré des violences pendant le couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19. Les victimes et organisations des droits humains se disent indignées. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Le 30 mars, peu après le couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus, des policiers ont pénétré au domicile de Bernard Orenga dans le comté de Bouzia, à l'ouest du pays, l'accusant d'avoir ouvert un bar dans sa maison. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène, détruit meubles et fenêtres et ont passé à tabac M. Orenga à coups de matraque et ont fouetté sa femme, ses enfants et des voisins. Après enquête, l'autorité indépendante de supervision de la police a recommandé de poursuivre les agents, ce que le parquet a officiellement fait le 21 janvier. Coup de théâtre, au début de ce mois, l'accusation a annoncé le classement de l'affaire sans aucune explication. Le procureur s'est juste présenté et a dit « j'abandonne les poursuites, on ne leur a même pas demandé de plaider ». C'est indigné Peter Klama, directeur de l'ONG Independent Medical Legal Unit. Une déception pour les victimes, mais aussi pour les ONG de défense des droits de l'homme qui ont recensé 166 morts causées par les forces de l'ordre au Kenya en 2020. Dans ce pays, très peu de policiers ont affaire à la justice et les condamnations sont encore plus rares. Amnesty International a enregistré 778 morts de violences policières et des disparitions forcées depuis 2007, mais seulement 28 cas ont fait l'objet de poursuites.
Selon Human Rights Watch, l'armée éthiopienne a tué au moins 83 civils et déplacé des milliers de personnes pour déloger les autorités dissidentes de la région du Tigré. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Selon Human Rights Watch, les bombardements ont eu lieu sur des zones densément peuplées. Les attaques à l'artillerie lourde des troupes fédérales ont touché des maisons, des hôpitaux, des écoles et des marchés. Selon l'ONG qui se concentre sur 3 villes, la capitale régionale, Mekele, Shire et Houmera. Laetitia Bader, directrice de Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique, affirme qu'au début de la guerre, les forces fédérales éthiopiennes ont effectué des tirs d'artillerie à l'aveuglette dans les zones urbaines du Tigré. L'ONG demande à l'Éthiopie d'autoriser la présence d'observateurs des Nations Unies au Tigré. Le premier ministre éthiopien et prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, a annoncé fin novembre la fin de l'opération militaire au Tigré, mais les organisations humanitaires et des diplomates souligne que l'insécurité persistante dans la région entrave grandement la réponse humanitaire.
Le maréchal Khalifa Haftar en Libye a promis ce jeudi le soutien de ses forces au processus de paix lors d'un entretien avec le nouveau chef du conseil présidentiel, Mohamed Al-Menfi. Le forum de dialogue politique a élu le 5 février M. Menfi deux vice-présidents et un premier ministre, Abdel Hamid Deba. La nouvelle équipe doit former un gouvernement et préparer des élections nationales prévues en décembre. Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, a dénoncé une guerre médiatique et des victoires imaginaires du Front Polisario qui a affirmé avoir tué trois militaires marocains dans le sud du pays, près du territoire disputé du Sahara occidental. Le mouvement indépendantiste a fait état lundi d'une opération contre une garnison marocaine à Ouargziz dans la région d'Aka. En Algérie, le décès accidentel d'une étudiante dans sa chambre d'une cité universitaire d'Alger a déclenché des manifestations dénonçant la dégradation des conditions de vie sur les campus. Nassira Bekouche est décédée samedi d'électrocution à la cité universitaire d'Ouled Fayet, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. Les autorités ont limogé le directeur du campus et le directeur de l'Office national des œuvres universitaires. La plupart des pays africains vont continuer à utiliser le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, en dépit de questions sur son efficacité sur le variant sud-africain, a indiqué l'Agence de santé publique de l'Union africaine. Pays le plus touché du continent par la pandémie, l'Afrique du Sud s'est dite prête mercredi à revendre ou échanger 1 million de doses de ce vaccin qu'elle a écarté au profit de celui de Johnson.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite au Sénat américain du procès de l'ancien président Donald Trump, jugé pour incitation à l'insurrection suite à l'assaut du Capitole le 6 janvier par ses partisans. Le point avec Eric Manirakiza.
Les procureurs démocrates poursuivent aujourd'hui leurs arguments contre Donald Trump. Ils l'ont accusé hier d'avoir nourri pendant des mois la colère de ses partisans jusqu'à ce qu'elle explose au Capitole le 6 janvier. Affirmer que l'ex-président pourrait être responsable des violences d'un petit groupe de criminels qui l'ont absolument mal compris est tout simplement absurde, a écrit lundi un de ses avocats qui souligne qu'il les a exhortés à rester pacifiques. Le président Trump n'a pas été le témoin innocent d'un accident, mais a abandonné son rôle de commandant en chef pour devenir l'incitateur en chef d'une dangereuse insurrection, a lancé Jamie Raskin, qui supervise l'équipe menant l'accusation. Si quelques sénateurs républicains lui ont imputé une responsabilité dans l'attaque, il est peu probable que 17 républicains joignent leur voix aux démocrates pour le déclarer coupable. Donald Trump pourrait donc être acquitté dès les prochains jours.
Le président américain Joe Biden a dit avoir passé 2 heures mercredi au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping lors de leur premier échange depuis son arrivée à la Maison-Blanche. « Si on ne fait rien, ils vont nous écraser », a-t-il ajouté, réaffirmant sa volonté de tenir tête à Pékin. Instagram a fermé le compte de Robert Kennedy Jr., neveu de l'ex-président John Kennedy. Cet avocat écologiste, connu pour ses positions anti-vaccins, est le fils de l'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, assassiné en 1968, après son frère, le président John Kennedy, en 1963. Les Birmans ont manifesté ce jeudi pour une 6e journée consécutive contre le coup d'État malgré l'interdiction des rassemblements et une nouvelle vague d'arrestations au lendemain de l'annonce par Washington de sanctions contre la junte. Le général Minh Aung Hlaing a lancé un nouvel avertissement aux manifestants, notamment aux fonctionnaires qui ont rejoint le mouvement, les appelant à reprendre le travail. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gicourt.
En République démocratique du Congo, l'opérateur de téléphonie mobile Orange a signé un contrat avec la société canadienne Nouran pour étendre l'accès à ses services dans les zones rurales. Selon cet accord, Nouran va construire et exploiter au cours des 40 prochains mois 2000 nouvelles tours télécom pour Orange RDC afin de répondre à la demande en connectivité des communautés rurales du plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Après plusieurs mois de négociations, le Gabon et l'Union européenne viennent de signer un accord sur le développement et la transformation de la pêche au Gabon. Le protocole d'accord, d'une valeur de 17 milliards de francs CFA, prendra en compte la protection de l'environnement marin et valorisera le potentiel halieutique du pays. Ici aux États-Unis, le marché de l'emploi est très loin d'être solide et l'expérience des récessions passées montre que cela pourrait prendre des années pour revenir au plein emploi, comme avant la pandémie, a déclaré hier Jerome Powell, le président de la Banque centrale, qui a précisé qu'il faudrait, en plus d'une campagne de vaccination massive, une série de mesures gouvernementales efficaces pour panser les plaies du marché du travail.
À présent les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Finale du Mondial des clubs ce soir à Doha au Qatar. Les Tigres mexicains, amenés par leur buteur français André-Pierre Gignac, défient l'orgue Bayern Munich. Une victoire des Mexicains au stade de la Cité de l'Éducation d'Al Rayyan serait une énorme surprise, puisque depuis sa création dans son format moderne au début des années 2000, le Mondial des clubs a toujours été remporté soit par le représentant de l'Europe, soit par celui de l'Amérique du Sud. Le Bayern, qui l'a déjà gagné en 2013, cherche à sceller un sextuplé de trophées en l'espace d'un an, Coupe Championnat, Ligue des Champions, plus les Supercoupes d'Allemagne et d'Europe. Yaya Touré dépose ses valises en Ukraine. L'ancien international ivoirien a été nommé entraîneur adjoint de l'Olympique Donetsk. L'éléphant a donné l'information sur son compte Twitter. C'est formidable d'être de retour en Ukraine pour continuer mon parcours d'entraîneur. Merci à l'Olympique Donetsk pour ce merveilleux accueil. J'ai hâte de transmettre mes connaissances, d'aider l'équipe et de poursuivre mon apprentissage ici, a écrit le champion d'Afrique 2015. Ancien joueur, entre autres, du FC Barcelone et de Manchester City. Yaya Touré a évolué en Ukraine comme joueur au Metalurg Donetsk entre 2004 et 2005. Ici aux États-Unis, la nouvelle saison du championnat nord-américain de football qui devait débuter le 3 avril prochain commencera le 17 avril après que le syndicat des joueurs a accepté la prolongation de la Ligue de prolonger de 2 ans la convention collective en vigueur, soit jusqu'en 2027 pour faire face aux pertes économiques liées à la pandémie de Covid-19. Cet accord assure que les joueurs recevront 100% des salaires et des bonus en 2021, bien que la MLS s'attende à une autre année marquée par des pertes financières. L'an dernier, la perte $1 milliard de recettes, selon son commissaire Don Garber, a bouleversé l'équilibre économique de la Ligue. En NBA, Luka Doncic, auteur de 28 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, son 7e triple-double de la saison, a aidé Dallas à s'imposer sur le fil face à Atlanta, 118-117. Pour le 3e match consécutif, les champions en titre, les Lakers, ont dû disputer une prolongation contre Oklahoma City. Et pour la 3e fois, ils ont vaincu, mais cette fois par le plus petit des écarts, 114-113. Leurs rivaux, les Clippers, ont aussi souffert pour dominer les Minnesota Timberwolves, 119-112. 47 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. La meilleure performance personnelle de la saison pour le double MVP, Gianni Antetokounmpo, quoique impressionnante, n'a pas suffi à éviter la défaite des Bucks à Phoenix, 125-124. Les Brooklyn Nets ont renoué avec la victoire contre Indiana, 104-94.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, certaines localités manifestent depuis quelques semaines pour demander le départ des troupes françaises. Notre correspondant à Tombouctou a fait un tour dans la ville proche du théâtre d'opérations militaires pour connaître l'avis des populations sur la présence de la force Barkhane. Le point avec Alousseni Aladji.
Depuis quelques semaines, des Maliens manifestent pour réclamer le départ des troupes françaises. À Tombouctou, même si les marches contre la présence militaire de la France sont rares, une grande partie de la population demande pourtant à la France de clarifier sa position dans la lutte contre le terrorisme. Pour certains habitants de Tombouctou, il est difficile de comprendre que la France dispose d'autant de moyens au Sahel et qu'il y ait autant d'attaques.
L'intervention française, nous étions vraiment contents. Ils sont intervenus au bon moment, mais dès lors, jusqu'à présent, rien ne change. Donc il faut que l'État malien fasse tout pour que la France quitte notre territoire. Ce sont ces mêmes Français qui essayons vraiment de jouer aux pompistes. En tant qu'enfants du Nord, donc nous demandons à l'État malien vraiment de tout faire pour que l'armée française puisse quitter ici au Nord.
Franchement, c'est un intérêt bien déterminé. À Tombouctou, nous les voyons chaque fois. Ils font des patrouilles sans les famins. Ils partent là où ils veulent sur le territoire du Mali parce qu'il y a les accords de défense militaire. La présence française, là où elle était salie, là où elle est salitaire, c'est traquer les djihadistes. Là où ils sont retranchés, les empêcher de faire ce qu'ils appellent la charia, les...
À Tombouctou, certains habitants se posent une seule question. Après le départ de la force Barkhane, qui va assurer le peu de sécurité que nous avons?
Ici, aujourd'hui, nous, notre population de Tombouctou, nous pouvons encore vivre dans notre ville. C'est bien grâce à la force Barkhane. Je pense qu'aujourd'hui, si toutes ces personnes s'agitent autour du départ des forces françaises du Mali, c'est bien à cause de la mauvaise information.
Souvent, nous constatons que si un militaire est muté vers le nord, ou bien s'il doit aller en mission, il fait semblant d'être malade. C'est pour ne pas affronter ces gens-là. Par contre, la force armée française, elle est pratiquement partout au nord.
L'armée malienne n'a pas assez d'équipement ni assez de préparation pour faire face à cette crise que nous traversons aujourd'hui. Ceux qui réclament le départ des forces étrangères sont pour la plupart des personnes qui vivent loin des théâtres d'opération.
Vraiment, la France, elle est là pour appuyer nos femmes. Les femmes, et même on les voit comment ils font. J'ai vu la voiture des femmes passer. Il y avait, tu vois, certains militaires derrière les pick-up avec leur téléphone en train d'écouter des vocaux sur WhatsApp et autres là. Mais comment est-ce que ces gens-là peuvent nous sécuriser? Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui la France quitte Tombouctou, moi aussi je vais partir, je vais faire partir toute ma famille.
Au moment où le départ des forces françaises fait couler beaucoup d'encre de salive, le président de transition, Bandao, a réitéré la gratitude du Mali envers les forces étrangères. Un sommet sécuritaire doit réunir autour du président français Emmanuel Macron les chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel au Tchad les 15 et 16 février pour faire le point de l'engagement militaire de la France dans la région.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24h sur 24.
10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la crise en Libye a eu des effets néfastes sur les pays voisins et le Sahel. La désignation d'une autorité exécutive unifiée pour mener la transition à Tripoli a ravivé l'espoir d'une stabilisation progressive de la région. Eric Manirakiza a joint à Abidjan le journaliste nigérien Sedi Kaba, spécialiste du Sahel.
Tout ce mal-là a été aggravé par la crise libyenne, puisque après la chute de Kadhafi, certains Maliens sont revenus, ont lancé la rébellion et de fil en aiguille, on est arrivé à l'occupation du nord du Mali par des djihadistes à la faveur justement de ce qui se passe en Libye. Donc si la Libye se stabilise, ça devient une raison d'espérance, un motif d'espoir pour les pays du Sahel, les pays du G5 Sahel. Vous savez que des pays comme le Niger, le Tchad, qui sont dans le G5 sont frontaliers de la Libye et à partir du territoire libyen que beaucoup de choses se passent. Même le Mali, qui n'est pas frontalier direct de la Libye, les choses transitent par le Niger pour aller à Libye. Donc, c'est dire dans l'ensemble que toute évolution positive de la situation en Libye crée un mélange d'espoir au Sahel parce qu'on ne résout pas la crise au Sahel si on ne résout pas la crise en Libye.
Pendant les 10 années, est-ce qu'il y a-t-il eu des évolutions positives sur le Sahel où la situation a évolué en dents de scie?
Il y a eu des périodes où, lorsque, par exemple, le contrôle du Sud a été repris par le maréchal Khalifa Haftar, il a pu empêcher que des mouvements djihadistes s'infiltrent dans les pays voisins de la Libye à partir de la Libye. Mais ça, c'est un îlot, on peut dire même que c'est quelque chose de totalement marginal par rapport à la situation depuis la chute de Kadhafi. Depuis 10 ans, la Libye est devenue le refuge des groupes djihadistes qui s'infiltrent et qui ont des connexions avec Boko Haram, qui ont des connexions avec le mouvement du Nord Mali. Il n'y a pas eu vraiment un contrôle territorial de l'autorité de transition en Libye sur l'ensemble du territoire. Et ça, ça a affaibli le Sahel. Parce que pendant ces 10 années, le trafic d'armes a pu se faire à partir de la Libye vers ces différents fronts-là, vers ces mouvements djihadistes. Globalement, le Sahel a continué à vivre, à subir la situation en Libye qui n'a pas été positive, à part quelques périodes où l'autorité, où les pouvoirs libyens les différentes parties libyennes ont pu s'entendre. Je pense notamment à l'accord de Skhirat qui a été signé en décembre 2015 avec le soutien des Nations Unies. Mais cet accord n'a pas permis d'éviter que la Libye s'enfonce dans la crise. Et à chaque fois que la Libye s'est enfoncée dans la crise, il y a eu des conséquences sur le pays du Sahel. Particulièrement, on peut même citer le cas du Tchad où une rébellion armée a pu partir à partir du sud libyen pour attaquer les autorités tchadiennes. Et aujourd'hui encore, et du côté du Tchad, on redoute que les personnes qui sont réfugiées dans le sud libyen puissent porter des attaques. Il n'y a pas longtemps, il y a un front de libération, un mouvement armé nigérien qui s'est installé dans le sud libyen et qui a menacé d'attaquer le Niger.
Le journaliste Sedi Kaba, spécialiste du terrorisme dans le Sahel. L'accord tripartite entre le Cameroun, le Nigeria et le HCR pour le départ volontaire des réfugiés du camp de Minawo dans la région de l'extrême nord a été signé mercredi en présence du ministre camerounais de l'administration territoriale et du gouverneur de l'état de Borno au Nigeria. Minawo est le plus grand camp de réfugiés nigérians au Cameroun qui fuit les exactions des djihadistes. Plus de 66 000 personnes y vivent depuis 2013. Le reportage d'Emmanuel Juntap.
Un air de fête dans le village Minawo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où un camp de réfugiés est ouvert depuis juillet 2013 pour les populations victimes du mouvement Boko Haram. Ce jour, les autorités camerounaises, nigérianes et du HCR visitent le camp de réfugiés en prélude au départ volontaire de 5096 réfugiés nigérians. Les premiers convois d'après l'accord de rapatriement sont prévus entre le 27 février et le 7 mars 2011, à la grande satisfaction des candidats au départ.
Je suis très content parce que je suis prêt au retour. C'est pourquoi on est content.
Nous sommes contents aujourd'hui parce qu'il y a certains gens qui vont entrer dans le nouveau pays. Parce que nous autres croyons qu'il y a les pieds maintenant dans nos villages.
Un départ tant espéré, malgré les bons souvenirs du Cameroun, leur terre d'accueil depuis 2013. Lucas Isaac, représentant des réfugiés nigérians du camp de Minawo.
Nous avons de bonnes relations avec les communautés hôtes. Il y a des problèmes. Il y a seulement eu au départ l'incompréhension de la langue parce qu'on ne comprenait pas leur langue. Mais maintenant, nous sommes un, nous vivons en paix. Ils savent que nous sommes des frères, nous sommes de l'extrême nord du Nigeria. Eux, ils sont de l'extrême nord du Cameroun. Donc c'est seulement les frontières qui nous ont séparés, nous sommes le même peuple.
Le gouverneur de l'état de Borno au Nigeria a effectué le déplacement du Cameroun pour assurer ses compatriotes des mesures prises dès leur retour. Oumarou Zouloum Babangana,
gouverneur de l'état de Borno.
Le gouvernement du Nigeria ainsi que le gouvernement local ont fait tout ce qui est possible pour assurer un retour en toute sécurité de nos réfugiés, et ce, de différentes manières. Nous avons mis en place les moyens nécessaires, particulièrement en termes de logement, d'accès à l'eau, aux soins médicaux et à l'éducation.
Plus de 66 000 réfugiés nigérians vivent dans le camp de Minao. Cette population comprend 62% de mineurs, moins de 18 ans, et 54% de femmes et filles, selon le HCR. C'est le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, qui a signé l'accord de rapatriement volontaire au nom du gouvernement camerounais.
Vous avez vous-même constaté la joie des populations. C'est une volonté manifeste. Il y a pas mal de réfugiés, bien que très bien encadrés au Cameroun, et veulent rentrer au Nigeria. Voilà pourquoi tout le monde est là aujourd'hui pour qu'on puisse mettre ensemble les instruments légaux pour encadrer ce départ volontaire.
Un premier contingent de 130 réfugiés nigériens ont quitté le Cameroun par avion en 2019 pour entrer dans l'état de l'Adamawa au Nigeria. Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite au Sénat américain du procès de l'ancien président Donald Trump. Mercredi, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont montré des images inédites de l'émeute du 6 janvier au Capitole. La vidéo a dominé le premier jour de l'argumentation des démocrates visant à imputer à Donald Trump la responsabilité directe de la tentative d'empêcher la proclamation de la victoire de Joe Biden. Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le vice-président et les sénateurs américains peu avant l'assaut contre le Capitole. La police attaquée par des émeutiers. Scène qui brosse un tableau plus complet de la violence à l'intérieur du Capitole le 6 janvier. Ce sont des images inédites montrées par les responsables de la mise en accusation à l'ouverture de leurs arguments contre l'ancien président Donald Trump. Jimmy Raskin, responsable de la mise en accusation de la Chambre des représentants.
Nous allons prouver que le président n'était pas un spectateur innocent dont la conduite était tout à fait appropriée et devait être une norme pour les futurs présidents, mais qu'il a incité cette attaque et qu'il l'a vu venir.
Les démocrates font valoir que la manif autour de Trump, peu avant l'émeute pour dire « Stop the steal », cessez le vol, n'était pas un événement isolé. Selon eux, c'était le point culminant de plusieurs mois d'allégations de fraude électorale et l'incitation des partisans de Trump à attaquer le processus électoral. Eric Solwell, représentant démocrate.
Il n'a jamais été question d'un seul discours. Il a construit cette émeute pendant plusieurs mois avec des messages répétés, leur faisant croire qu'ils avaient été privés de leur vote et qu'ils feraient n'importe quoi pour empêcher la certification.
Bien avant l'émeute, toutes les poursuites judiciaires engagées par l'équipe de Trump pour faire annuler les résultats ont échoué, ont noté les responsables de la mise en accusation. Madeleine Dean, représentante démocrate.
Pas un seul tribunal, pas un seul juge n'a retenu que les résultats des élections étaient invalides ou devraient être invalidés.
D'après l'accusation, l'ancien président s'est donc tourné vers ses partisans pour arrêter la certification de la victoire de Joe Biden. Stacey Plaskett, représentante démocrate.
Make no mistake, ne vous y trompez pas. La violence n'était pas seulement prévisible pour le président Trump. La violence était ce qu'il a délibérément encouragé.
Les avocats de Trump présentent leur défense vendredi. Pour eux, Donald Trump exerçait son droit de liberté d'expression et ne peut être tenu responsable du chaos qui s'en est suivi. Pour que Trump soit condamné, il faudra qu'au moins 17 sénateurs républicains se joignent aux démocrates pour le déclarer coupable. John Hudak de la Brookings Institution.
Ils sont redevables à l'ancien président. Ils voient que leur propre avenir politique dépend de la sortie des électeurs de Trump et de leur vote dans leur propre course au Sénat, en particulier dans les États républicains. Ainsi, quelles que soient les preuves que l'accusation va présenter à ce procès, un grand nombre de républicains va les ignorer et voter pour acquitter le président.
Chaque camp a 16 heures pour convaincre. Les démocrates qui ont commencé hier ont encore 8 heures aujourd'hui pour présenter leur cas. Puis demain, vendredi, les républicains vont leur emboîter le pas pour leurs 16 heures d'arguments.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.